Allez-y, moi, ce que je trouve, un des points qui me paraît extrêmement intéressant dans ce que vous dites, c'est effectivement le. Au fond, ce temps de la maturation, qui est aussi un temps de recherche-développement, et qui renvoie, je pense, à des problèmes qui sont très contemporains dans d'autres domaines, qui est la question de la propriété industrielle, en fait, et de la propriété dans les pôles de compétitivité. On parle aussi beaucoup de l'open innovation, innovation partagée, et avec des grosses incertitudes sur finalement qui se retrouve propriétaire à la fin et comment est-ce que se rémunèrent les différents types d'investissement, de participation dans des processus innovants. Donc ce que vous dites là, je pense que ça fait écho dans plein d'autres domaines économiques ou industriels. Est-ce que ça provoque un écho? Si, quand même, je pense, mais... On va prendre quelques remarques. Florence, après.
Jean-Louis Curette, seul président démocratiquement élu de cette grande assemblée. Donc, je me sens plus obligé de dire ça parce que ma question est un peu provocatrice, mais qu'est-ce qui est prévu pour les espaces ruraux? Est-ce qu'il y a des outils dans les territoires ruraux? Parce qu'on a des SCOT qui centralisent les droits à construire sur de petits espaces très réduits dans les villages ruraux. Parfois, c'est très compliqué parce que vous définissez 2 hectares, vous avez le droit de construire, mais en dehors de ces 2 hectares qui appartiennent à une famille qui ne veut pas vendre, vous n'avez pas le droit de construire. Qu'est-ce qui est prévu pour les espaces ruraux? Est-ce qu'il y a des outils pour les territoires ruraux?
Oui, c'était surtout une remarque. Merci Franck, parce que moi je dois beaucoup plaisir à t'entendre. Plusieurs points à dire. Tu l'as très bien dit, moi je crois qu'on crève du morcellement. À force de toujours réinventer la poudre, on va finir par ne plus savoir rien faire. On crée des machins, alors il y a déjà des compétences qui existent. Les gens du VD qui parlent pourraient dire qu'elles s'est toujours interrogées sur la pertinence de la création du VD, mais c'est un détail. Tu l'as bien montré, on croule sous les dispositifs. Non mais, je me suis dit, est un partenaire très, très intéressé par l'IEDAT, pour plein de raisons. On croule sous les dispositifs. Moi je dis, Avant City est lauréat, pour la première fois, là, d'un projet H2020. Enfin, franchement, qui n'a jamais essayé de se monter un projet H2020 ne connaît pas la complexité du truc. Il faut juste être vraiment motivé pour faire ça. L'Oréal d'un truc, ça s'appelle EU-China Innovation Platform on Sustainable Innovation. Et quand même, juste sur les sujets qui nous intéressent, c'est hyper compliqué, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc on croule sous les structures, au lieu de s'interroger sur qui déjà sait déjà faire, on croule sous les appels à projets. Tu l'as dit à demi-mot, parce que tu as un devoir de réserve que, en tant que fonctionnaire détaché, je n'ai plus tout à fait aujourd'hui. Réinventer Paris, c'est un formidable modèle de truc où les PME payent plein pot pour finalement faire la pub de la ville de Paris. Hein. Ce n'est pas le seul exemple. Donc on croule là-dessus, et puis à la fin, on arrive à juste plus être efficace. Donc moi, c'est un peu ma difficulté. Je dis qu'on a besoin, le troisième point que j'ai insisté, ça a été un peu évoqué ce matin. Le jour où l'administration qui manque d'experts, t'es un contre-exemple, mais franchement, si l'administration dont je viens était capable d'évaluer valablement les démonstrateurs, et nous sommes membres du consortium Rêve de scène urbaine que tu as cité, si l'administration était capable d'évaluer valablement les démonstrateurs, et notamment les 16 lauréats de l'appel à projet de 2015 sur les démonstrateurs de ville durable, ça se saurait. M'expliquer que tout ça va se faire magnifiquement. Donc là-dessus, on invente des usines à gaz. Nous avons des exemples. Faire un benchmark de ce qui existe, le mettre en ligne, le partager. Je Franck essaie désespérément de le faire. J'observe simplement que ce qui t'arrive, c'est d'être balancé de projets où tu sers de pom-pom-poy de luxe à des gens qui n'ont plus de compétences techniques parfois. C'est juste un gâchis formidable. Moi, là, j'en profite vraiment pour dire, si on se mettait à dire qu'est-ce qui marche, faisons le recensement de ce qui se fait. Ayons l'honnêteté de dire qu'il y a des appels à projets au sein desquels il ne faut surtout pas envoyer les entreprises et surtout pas envoyer les PME, sauf à vouloir leur faire faillite rapidement. Et si on avait vraiment un regard d'experts et pas de gens qui parlent de la ville durable, fût-ce avec un tailleur à 3 000 euros et bien coiffé, on gagnerait sûrement énormément en efficacité. C'était
ça,
la minute de même, rester le mais vraiment, moi, j'en peux plus de ce gâchis, parce que c'est nos impôts. C'est nos impôts. Mes impôts encore. C'est bien pour ça que je t'invite à réfléchir. Je t'invite à réfléchir, à aller travailler vers des gens que tu as cités avec le juste titre. Mais on a, enfin, ton exposé est remarquable, ce gâchis national.
Ça,
et je passe sur notre représentation au niveau national, au niveau international, imaginons c'est n'importe quoi. Alors que les exemples, on les a, tirons les leçons de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Quand j'étais au World Climate Summit la semaine dernière, comme vous l'avez dit, ce qui ne marche pas est aussi important que ce qui marche. En France, on est les rois de la vie durable à la française, qui est le premier phénomène.
Merci, c'est une spécialiste qui vous le dit.
Non, je ne sais pas, je ne sais pas.
Pascal, tu fais passer derrière, s'il te plaît.
C'est bien. La question de Béotia est bien moins bien formulée, mais je vais te
poser. Béotia, mais on met néanmoins lyonnais.
Oui, oui. Je ne vois pas le rapprochement.
Bah, c'est que Béotia, c'est un territoire.
Ah, oui. Ah, oui, alors la première question, c'est rejoint les observations précédentes, effectivement, comment mesure-t-on que ces différentes opérations atteignent les objectifs, ou est-ce qu'on sait mesurer l'impact de ces différentes opérations au regard des grands enjeux vraiment de protection de l'environnement que vous rappeliez? La deuxième question, c'est en quoi, on parle beaucoup de participation, plus du tout, alors est-ce que ce sont des sujets, des opérations qui laisse une possibilité de participation, et si oui, de qui d'ailleurs? Et la troisième question, en quoi ce type d'opération est-il duplicable? Parce que là, elle concerne généralement un petit morceau de ville, on me rappelait que c'était très peu par rapport à la ville en général. Donc en quoi il y a duplication, impact ou duplication sur le reste de la ville en général?
Oui, je voulais dire. Oui, moi je voulais juste aussi faire un témoignage et puis. Dominique Forgue, Gros Beauchamp, donc acteur privé. Vous avez dit très bien d'ailleurs, vous avez montré le fait que finalement on a 20 ans à peu près devant nous pour réagir sur la problématique de production de CO2. C'est à peu près le consensus de tous les grands experts aujourd'hui que vous avez illustré à travers les 35 tonnes par. Les 35. Milliards de tonnes par an. Dans les métiers de l'immobilier, 20 ans, finalement, c'est presque rien. Donc, il y a un paradoxe absolument extraordinaire, c'est que finalement, il faudrait réagir, mais maintenant, si on veut pouvoir réagir dans 20 ans. Et en plus, on est, puisque j'en fais partie, on est complètement contraint par tout ce que vous avez montré, c'est-à-dire des réglementations qui, en fait, nous empêchent en permanence d'aller vers des initiatives. Est-ce qu'il y a des réflexions qui sont portées là-dessus? Est-ce qu'il y a un espoir? Parce que, d'ailleurs, bravo pour votre intervention en global, parce que après le déjeuner, avoir réussi à nous garder à ce point éveillé, c'est bravo.
Allez, juste une dernière remarque, parce qu'après, bon, aussi éclairé soit-il, je pense qu'il y a un moment aussi.
Enfin, dans les exemples que vous avez donnés, il y a beaucoup d'exemples qui étaient liés à la construction. C'est la partie assurance, mais ce n'est pas une question liée à l'assurance. Donc on pourrait se poser là. L'assurance constructive, justement. Et on pourrait dire beaucoup de choses sur les produits dehors et la problématique de garantir aussi tout le temps ce genre de nouveaux systèmes. Mais, non, c'était vraiment de se dire, dans les exemples que vous avez donnés, c'était beaucoup sur des rénovations de lourdes, de quartiers, etc. Est-ce qu'il existe des exemples d'innovation énergétique, mais qui intègre un bâti existant, mais de manière légère, c'est-à-dire sans qu'on soit dans de la réhabilitation. Voilà.
Alors, sur le RAL, vous avez raison, il y a quand même des points faibles aujourd'hui du public, c'est les villes moyennes, enfin les petites villes, et le rural. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait, et notamment on se rend compte que, enfin, moi je disais toujours que, en fait, il ne faut pas qu'on calque, enfin, le rural, ce n'est pas du petit urbain, donc en fait, c'est autre chose. Et d'ailleurs, le fait d'avoir plus de place, plus d'espace, la maison individuelle, mais en fait on peut aussi faire de plein d'autres choses un petit peu différentes. Alors moi je connais pas beaucoup, même si Melkos a lancé, non c'était Ciel Pinette pardon, qui avait lancé un truc sur les centres-bourgs, etc. et tout, on était quand même plutôt sur habitation de la partie la plus urbaine. Alors moi il y a quand même deux, peut-être il y a, enfin si vous connaissez pas, la station Brudette. C'est une association en Bretagne, de maires de toutes petites communes, et qui en fait sont dit bon, nous on se développe par lotissement, comment on peut donner des bons réflexes à nos lotissements, en se rendant compte que par exemple il n'y a pas besoin de trottoir, parce que finalement il faut mieux d'ailleurs faire une route globale, comme c'est tout le rouleau pas, etc. et tout. Donc, des tas d'éléments où ils gagnaient 3 francs 6 sous là pour investir différemment. Et ils sont vraiment extrêmement intéressants sur leur approche un peu différente et comment ils gagnaient 20% sur l'OVRD. Et c'est ça pour très pragmatique, les chaudières bois, comment on positionne un peu le. Donc Brunet très bien. Et puis les parcs régionaux, notamment le parc du COS qui le plateau des. Alors, Fous de la Montagne, c'est le plateau des Mille Vaches. Et donc vraiment la fédération des parcs nationaux régionaux sur la partie constructive font des trucs vraiment très très bien, et c'est eux qui moi je trouvais étaient les plus innovants sur le milieu rural en valorisation vraiment de ce territoire là sans le faire comme un sous-espace urbain. Alors surtout qu'en fait c'est un territoire qui gagne de la population contrairement à ce qu'on peut penser, et c'est extrêmement intéressant qu'en plus vous regardez aujourd'hui le numéro de permis de construire important, et sur des cartes de France, et notamment en plaquant des cartes de France, on se rend compte qu'il y a un territoire qui a beaucoup de population, mais par contre qui il y a très peu de, enfin les SCOT sont pas forcément très très engageants, il n'y a pas encore beaucoup de PLU, etc. et tout, ben, c'est tout le pourtour de l'Île-de-France, c'est entre la dernière gare de RER et la première gare de TGV. Et c'est un territoire en fait où il y a beaucoup de gens qui vont là parce que c'est moins cher, mais en même temps on est en train de faire un gros territoire de mutation, de commutation, etc. Donc il y a un vrai chantier, et ça c'est vrai, il faut vraiment le remettre en avant. Donc en tout cas, Brudet, je peux vous mettre en relation avec la Fédération des Parcs, qui est plutôt bien.
Les CIE, c'est pas une
idée. Oui, et les CIE. Après les CIE, par contre, c'est que chaque CIE est extrêmement différent de l'autre, donc ça dépend vraiment de son CIE, quoi. Donc, alors que Fédération des Parcs, il y a vraiment tout un. Ils font des formations internes, et d'ailleurs, ils ont beaucoup aux élus, donc n'hésitez pas, d'ailleurs, au gouvernement, qui est peut-être le mieux. Par contre, la question que je n'avais pas, c'est vraiment, quoi. Donc là, il y a des fonds, peut-être, et tous les fonds du ministère de l'Agriculture, d'ailleurs, on tombe du ministère de l'Agriculture, on ne pourrait pas tomber là-dessus. On peut aussi faire un peu autre chose. Donc, j'ai pas beaucoup de réponses. Après, sur les deux questions, là, on peut peut-être revenir sur la question de l'expertise. Alors, aujourd'hui, on n'évalue pas. Donc, aujourd'hui, on pourrait commencer. Alors, on commence à avoir un panel sur les DPE, ce qui donne une image aujourd'hui d'où on en est sur le parc immobilier français là-dessus. Donc, on a mis en place avec le CSTB et le CEREMA, pour ceux qui connaissent, qui sont les services techniques du ministère, une méthode d'évaluation pour les écoquartiers, mais qui pourrait être étendue sur l'eau, l'énergie, les déchets. Alors la difficulté, c'est qu'en fait, c'est très complexe, en fait. Alors que finalement, on se rend compte qu'il faudrait peut-être faire une méthode beaucoup plus simple. Et je pense qu'il y a quatre choses à mesurer, en fait. C'est un, le coût, hein, le loyer, etc. Deux, c'est la consommation des éléments. Trois, l'impact carbone pour inclure la mobilité. Puis quatre, il faut aller voir les gens pour savoir s'ils sont contents ou pas contents. Enfin, vraiment, ça permet de faire des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'après, on a pas grand-chose. Alors, ce qui fait que, sinon, alors vous avez donc l'avantage et la difficulté de nos ministères, c'est qu'on a des directions très expertes. Par exemple, vous avez un observatoire de biodiversité qui est formidable, mais qui ça ne vous dit pas qu'est-ce qu'il faut mettre dans le lot de cessions de terrain sur la partie immobilière. Donc il manque quelque chose qui soit plus léger. Alors, c'est pour ça que finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, des certifications LEED, BRIM ou HQE permettent d'être un mix entre aujourd'hui, donner 3-4 critères et les suivre. Alors, par contre, souvent, on ne va pas jusqu'à un an plus tard, deux ans plus tard. Ce qui demande en amont, typiquement sur le département de logement, il faudrait au niveau de la vente en VFA dire aux gens, ça ne vous dérange pas si on récupère vos données pendant deux ans, ce sera anonyme et c'est pour faire le suivi, et ça on n'y pense jamais. Donc il y a des choses, des réflexes qu'on n'a pas forcément. Donc là sur l'évaluation, c'est un gros point faible. C'est un gros point faible. Alors les Allemands qui eux évaluent sont extrêmement intéressants parce qu'en fait ils nous disent, KFV, je vous montre tout à l'heure, ils évaluent, mais ils nous disent en fait. Là où on a fait des énormes rénovations énergétiques, ça marche très très bien, comme l'ANRU, hein. L'ANRU, notamment l'ANRU à Lyon d'ailleurs, Lyon-la-Duchère, on investit 30 000 euros par logement. On gagne 30% sur le lot chauffage, super, ça fait 17 euros par mois, l'économie. Donc on se dit finalement, est-ce qu'on a besoin de mettre 30 000 euros dans l'ensemble? Est-ce qu'il faut mieux raisonner à l'échelle du bâtiment, bien isoler le toit, les façades les plus exposées et la sous-face, et finalement on arrive quasiment à la même économie. Donc en fait là ils ont évalué ça. Donc les Allemands c'est pareil, ils se rendent compte qu'ils ont fait des grosses habitations avec une vraie réussite mais peu d'impact financier pour les habitants. En plus c'est souvent le propriétaire qui investit, c'est le locataire qui fait les économies, donc il y a aussi, on trouve sur, il faudra dire, bah, pendant 5 ans on partage les économies, enfin il y a un système comme ça un peu particulier, et souvent on se rend compte que derrière, c'est pas parce que votre bâtiment est mieux que vous avez de l'emploi, vous avez une attractivité, vous avez moins de délinquance, donc on se rend compte qu'en termes de qualité urbaine, ça apporte pas grand chose, donc en fait, d'où l'intérêt aujourd'hui de travailler avec l'ANRU sur la qualité environnementale et la qualité un peu urbaine ensemble, donc, et les Allemands ont la même chose que nous. Les maisons allemandes, pourtant mieux isolées des années 70-80, aujourd'hui, quand il faut réinvestir 30 000 euros pour avoir le nec plus ultra du durable, il faut mieux la vendre parce que c'est une maison neuve. Et en même temps, c'est une maison qui ne trouve pas forcément acheteur. Votre question, c'était sur. Oui, 20 ans. Alors, oui, alors là, en fait, c'est-à-dire qu'il faut assez rapidement qu'on prenne le braquet, quoi. Après, dans les 20 prochaines années, mais en imaginant, typiquement, RT 2000, la France, on était super en retard, 10 ans plus tard, tous les pays européens ont dit qu'on avait rattrapé notre retard de façon très très vite. Donc il y a aussi un effet exponentiel, qu'il faut aussi compter un petit peu là-dessus. Par contre, c'est vrai que le problème, c'est qu'il faut avoir, tout un appareil, aujourd'hui français, qui est sur la protection, qui permette de faire quand même. Et typiquement, alors d'ailleurs, on va voir à l'art. L'échange de chaleur, il est sur le port autonome. Le Halard, il est là. Donc entre les deux, il y a le port autonome, il y a la SNCF, il y a deux fois deux voies, et il y a le Halard. Eh bien, il faut demander au port autonome, il y a un tuyau qui passe, pas de problème. Non, pas de problème. SNCF, il y a un tuyau qui passe, mais il y a un pont qui est vide, on va aller dedans. Et là, la route, le préfet dit, certainement pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc énergétique qui passe et tout? Et à un moment, il faut juste dire au préfet, mais attendez, en plus quand on est au préfet, c'est un truc innovant, expérimental. Certainement pas. Et on lui dit, non mais attendez, c'est un tuyau 14 degrés, au pire on a une fuite d'eau à 14 degrés, eau de la mer. Aucune protection. Bon, alors, et donc là, EDFOS, on ne peut pas les nommer, ont dû. À un moment, l'étude qui était faite, c'est de dire, ouais, mais si un échange de chaleur, est-ce que l'échange de chaleur ne va pas changer la température de la tente dans le port autonome et que les poissons vont dire énorme? Et là, on s'est dit, et là, vous voyez, et donc le problème, c'est que le préfet ne donne pas son autorisation. Donc, mais ça dure un mois, deux mois, trois mois, six mois, mais entre-temps, vous avez vos permis de construire. Et donc vous dites, mais moi, il faut que je sache maintenant si je raccorde une partie à mon chaleur ou alors je passe tout électricité classique normale, quoi. Et je peux pas mettre les deux au cas où. Donc là, on se rend compte qu'à un moment, donc on fait un état de réunion, il faut dire, c'est innovant et pas trop innovant, c'est en fait, c'est figure de l'ose, en fait, un peu tout innovant, c'est classique, tout le monde le fait partout. Voilà. Et ce qui fait que forcément, un truc, moi, sur mes éco-quartiers, en 6 ans, j'ai eu une fois récupération de chaleur sur l'assainissement. Ça, c'est partout en Suisse. Tout ça parce que, mon dieu, les tatacs, la chaleur. Mais non, ça touche pas. Ce qui fait qu'on se rend compte qu'à un moment, il faut juste permettre comme ça, quand il y a des possibilités, il faut un encadrement. Et c'est qu'encadrement, alors, après je reviens au vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, ça peut concerner 7 ministères. Le ministère du Logement, pour l'urbanisme, le ministère de l'Écologie et de l'Énergie, pour l'énergie, le ministère de l'Industrie pour les pôles de compétitivité qui peut financer ou donner des autorisations, le ministère de la Santé pour les toilettes ou les toilettes, ventilation naturelle et tout, le ministère de la Culture, parce que architecte, urbaniste, monument historique, voilà, Bercy, parce que financement ou la fiscalité, etc. et tout, et le ministère des Affaires étrangères, à la fois sur les accords internationaux et aussi le commerce extérieur. Et donc vous mélangez des archis, des ingénieurs, des juristes, des économistes, des diplomates. Et donc, dans les ingénieurs, il y a des bombes, des mines, les industriels, les urbains, les compagnies et tout. Et tout le monde se dit, je suis numéro 1 dans l'expertise. Oui, mais ça dépend où. Parce que si le problème est historique, ben, ça va être plutôt l'archi. Si le problème, il est de l'opération, ça va être plutôt l'ingénieur des ponts pour eau et forêt. Si le problème, il est financier, ça va plutôt être Bercy et tout. Donc, il faut juste dire à tous ces gens en disant, oui, vous êtes Mais faut, on va d'abord expertiser le problème et après on va tirer sur la bonne expertise. Et là, quand vous devez mettre tout le monde autour de la table, c'est sympathique. Voilà. Et donc il y avait une dernière question, c'était sur.
Sur l'habitat existant.
Ah oui, alors. Donc c'est vrai qu'en général, c'était.
Les petites opérations.
Voilà, sur les petites opérations. Il y a quelques. Alors c'est des opérations un peu ponctuelles. Alors là, dans ces cas, c'est, je pense que c'est mieux d'aller voir l'ASSHQE, pour voir un peu tout son panel, ou d'aller voir, demander le. Au ministère de la Construction, la sous-direction de la qualité de la construction, le bureau qui s'occupe de la réglementation et notamment du titre 5. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites un truc qui n'est pas exactement normal, donc, mais qui n'est pas un truc énorme non plus, vous pouvez demander une dérogation. Et donc là, il commence à avoir tout un panel de solutions. Et d'ailleurs, je peux même vous mettre en contact avec Myriam Aver, qui fait partie du titre 5, qui avait recruté à Nantes, mais qui n'appuyait pas du tout, donc ça prend la peine. Je voulais juste vous dire, si ça vous intéresse, avec l'IVD à l'époque, on avait fait une petite fiche sur les IBA. C'est quoi une IBA, quelle IBA, ça peut vous servir, etc. Donc j'en ai apporté 5 exemplaires, mais je peux vous passer en PDF. Ça fait partie des ressources de l'ensemble.
Florence veut redire un mot, et après, voilà, et après...
C'est juste pour réagir sur ce que tu dis à juste titre, qu'à l'action de l'évaluation. Au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup d'évaluations, je dirais, ex ante, c'est-à-dire qu'on fait du HQ quelque chose, mais tout ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on est sur l'évaluation des performances que devrait rendre, sur le papier, un bâtiment. La question fondamentale, c'est celle de l'évaluation. Tu l'as dit, tu as mentionné, s'il s'appellera pour nous les 4A, mais je ne vais pas les déflorer ici. La question, c'est bien sur les projets que nous mettons en place. Il faut les évaluer ex ante, c'est-à-dire être capable de dire, a priori, voilà les performances que vous réalisez. Mais il faut, ex post, être capable d'émettre le diagnostic sur la pertinence de ces projets. C'est-à-dire, est-ce que ces projets, et pas seulement en évaluant leur performance propre. C'est-à-dire que, et tu l'as dit, l'effet d'un projet, quelles que soient ses performances en matière énergétique, de traitement de l'eau, tout ce qu'on veut, est-ce que ce projet... dans le site dans lequel il est implanté, il répond bien aux besoins du territoire, de la population. Et ça, ce diagnostic, alors c'est un travail qu'on est vraiment en train de conduire, que je pense qu'on devrait publier, si tout va bien, avant la fin du premier semestre. Et je pense que c'est ça, enfin, en tout cas, un point important de l'évaluation de nos projets. Et on se préoccupe, me semble-t-il, encore trop aujourd'hui, de l'évaluation avec santé, parce qu'un bâtiment est bébé, c'est HQ quelque chose, il est forcément top, sauf qu'on oublie qu'il y a des gens qui vivent dedans, qui ne sont pas forcément bien éduqués, qu'il y a par ailleurs des techniques de construction avec des personnels qui l'ont construit qui ne sont pas nécessairement formés. La question des ponts thermiques dans la construction est un vrai sujet. Hein, et on ne se pose pas encore aujourd'hui la question de l'évaluation de la performance réelle et du bénéfice de nos projets pour les territoires. Donc ça, c'est des travaux qu'on est en train de conduire, mais c'est extrêmement compliqué. Ça fait juste un an et demi qu'on est dessus et on n'a pas encore fait.
Un programme peut-être aussi pour un réa, par exemple.
Il y a 200 et demi maintenant, le PUCA avait lancé un programme, le groupe construction du PUCA, programme, le plan urbanisme construction architecture, elle fait un programme réhab qui prenait en fait des cas d'école, des immeubles années 50, des 70, hein, qu'on a dans toutes nos villes, et qui faisait des possibilités de réhabilitation pas trop chères. C'est Virginie Thomas qui s'en suivait, et le premier, ils ont fait le suivi des premiers tests, qui est plutôt pas mal. Alors, Virginie Thomas, je vais vous mettre en lien pour le développement entier.
Allez, on
prend une
dernière intervention.
Oui, oui, donc bravo à Franck pour sa présentation qui était vraiment très claire. Et donc pour encore rebondir une fois de plus sur la question de l'évaluation, ça pose aussi la question de la crédibilité et du coût des opérations. Je voulais revenir sur la diapo où tu présentais les charges en fait, hein, qui se cumulent au fur et à mesure de l'opération, et on voit le petit vecteur, la vert, lié, je dirais, au surcoût, on pourrait le dire comme ça, le surcoût de la prise en compte des questions de développement durable. Et en fait, le problème qu'on a, c'est que on voudrait montrer que ce surcoût, à un moment donné, si on est capable de l'évaluer, on voudrait montrer que ce surcoût, à un moment donné, il revient à diminuer les charges d'exploitation. Et donc ça pose la question de savoir comment, quelque part, on intègre les charges d'exploitation à venir sur la totalité d'une opération. Aujourd'hui, je pense que, je ne sais pas si tu as des idées là-dessus, mais on pense régulièrement sur, sur cette question du surcoût d'une opération liée à des questions d'innovation, de prise en compte du développement durable. Donc la capacité à convaincre les gens qui vont financer ces opérations à mettre un peu plus, parce qu'on n'arrive pas à dire que bah, derrière, dans le cycle de vie de l'opération, on va faire in fine des économies.
C'est l'approche du
groupe global. On va conclure.
Enfin, conclure.
On va.
Oui, c'est le micro.
On pourra en reparler si vous voulez. Enfin, je reste jusqu'à demain.
Ce soir,
c'est l'approche groupe global qui actuellement est super intéressante, mais globalement, aujourd'hui, il y a une rupture entre l'investisseur et les exploitants. Ou alors il faudrait. Alors c'est intéressant de voir tant tertiaire, quand justement Darwin reste propriétaire, donc finalement c'est eux qui récupèrent un peu les coûts, voir c'est mieux si on dit ben, on avait prévu tant, tout normal, on fait tant pendant 5 ans, donc ça ne vous coûte pas plus cher qu'ailleurs, mais en fait l'économie elle revient à l'investisseur, et puis après on peut faire un truc un peu dégressif, ou moitié-moitié. Et c'est des, sauf que juridiquement.
Et puis après il y a le problème du suivi.
Non, mais oui, parce que le coût global, c'est une chose, c'est le partage des recettes.
C'est ça. Comment on invente un nouveau modèle économique, en fait?
Ben, en fait, le modèle économique, c'est quand l'investisseur devient un gestionnaire. Pour aujourd'hui.
J'avais juste une micro-remarque. Il y a aussi tout le problème des protections de la donnée privée, ce sur quoi on se heurte, nous, aujourd'hui, sur les lois LAR, avec l'anonymisation des données, qui fait qu'on a énormément de mal vis-à-vis des conformités CNIL sur la question de la comparaison et des évaluations a posteriori. Parce que malheureusement, on est aussi limité par ces exigences.
On va en parler, vous êtes revenu là-dessus. Je vous propose qu'on suspende. Merci vraiment beaucoup. Merci.